Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur Radio Emma et nous sommes le vendredi 30 avril 2021 avec l'hôpital de jour. En régie avec moi, il y a
Marie,
infirmière, et en studio il y a
Léna,
Cérine,
Laure
et Adrien.
Eh bien, bienvenue à tous, à la fine équipe. Alors aujourd'hui, c'est une émission particulière parce que nous avons l'immense plaisir de recevoir Nicole Ferroni. Bonjour Nicole.
Bonjour.
Bienvenue à Radio Emma.
Radio Emma.
Alors déjà pour la présentation, quand même qu'on sache de qui on parle, Nicole Ferroni, on a l'habitude de la voir dans un studio radio puisqu'elle fait une chronique tous les mercredis matins sur France Inter. Donc les micros, comme vous vous en doutez, n'ont aucun secret pour elle. Mais on a pu la retrouver aussi à la télé dans des émissions d'humour comme On ne demande qu'à en rire, orchestrée par Laurent Ruquier, ou encore des émissions scientifiques, mais pour le grand public, qui est passée le soir comme Folie passagère de Frédéric Lopez sur France 2, ou Ça ne sortira pas d'ici, de Michel Simès, toujours sur France 2, où elle faisait des chroniques de vulgarisation scientifique.
Tout à fait.
Tout va bien, c'est validé. Et alors, pourquoi des émissions scientifiques, me direz-vous ? Eh bien, tout simplement parce que Nicole Ferroni a commencé par être diplômée du CAPES, puis de l'agrégation, s'il vous plaît,
ouais,
de Sciences et Vie de la Terre, et qu'elle a enseigné les sciences, notamment dans les quartiers nord, ici, à Marseille. En parallèle, elle prenait des cours de théâtre, et puis finalement, la comédie l'a emportée sur l'enseignement. Maintenant, personnellement, je trouve que ça lui colle à la peau puisqu'elle a le don, dans ses chroniques et ses passages télé ou radio, d'expliquer très clairement des concepts très complexes et qui d'un coup paraissent très simples.
Si ça, c'est pas de la pédagogie.
Bref, on la retrouve tous les mercredis à 8h54 dans la matinale de France Inter où elle fait des chroniques aussi drôles qu'engagées et où l'humour sert à véhiculer des messages forts. Elle a joué dans des films aussi comme L'ex de ma vie de Dorothée Sebag avec Géraldine Nakache ou dans Embrasse-moi de Océane Rosemary et puis plus récemment dans une série qui s'appelle Mental et qui passe sur France TV / et que je vous recommande. C'est une série qui traite des troubles psychiques chez les adolescents hospitalisés. Je vous le donne en mille, elle joue quoi ?
La psychologue.
Et voilà. Mais ça ne va pas être son rôle aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on la retrouve nature peinture en tant qu'elle-même. Donc pour résumer, Nicole Ferroni est humoriste, comédienne, diplômée de haut niveau en SVT, chroniqueuse mais surtout aujourd'hui notre invitée à Radio Emma.
Ouais, ouais, moi-même. Je m'aime.
Donc bienvenue Nicole. Et effectivement, en fait, l'émission va tourner autour de plein de questions sur votre parcours depuis le début, en fait. Et je laisse Léna commencer avec la première question.
Alors, dans quelle ville êtes-vous née et où avez-vous grandi?
Alors, je suis née à Casablanca, au Maroc. Et où j'ai grandi, alors en fait, moi, je considère que je grandis depuis toujours. Hein, même si j'ai 39 ans, j'aspire à être en croissance perpétuelle. Donc, j'ai grandi donc d'abord au Maroc, à Casablanca, jusqu'à l'âge de mes 7 ans. Ensuite, je suis venue en France. Alors, pour mes parents, eux, ils sont rentrés en France, parce que moi, je suis née au Maroc. Au départ, ils étaient censés y rester que 2 ans. Finalement, ils sont restés 8 ans. Donc après, j'ai passé 1 an en France, donc à Aubagne, avant de faire 1 an en Allemagne, parce que ma mère, elle a fait un échange, en fait, un partenariat avec une prof d'allemand. Donc, j'ai fait aussi 1 an en Allemagne. Et depuis donc l'âge de 9 ans, maintenant, j'habite à Aubagne, quasiment, avec un petit passage à Paris, de temps en temps. Mais voilà à peu près mon parcours géographique de croissance.
Eh ben, ça fait du bougeage, ça.
Ça fait pas mal de bougeage.
Ça fait voir du pays. Est-ce que ça a un peu induit des choses pour la suite, le fait d'avoir autant bougé au départ?
Je pense que ça induit... Alors, d'abord, on va dire en termes très pratiques, c'est que même si dans mes chroniques, je ne fais pas beaucoup de personnages, quand je suis en théâtre, j'aime bien quand je suis sur scène, des fois, voilà, m'approprier des accents ou des façons de faire ou des façons de parler. Et je pense que l'écoute de langues étrangères quand on est jeune favorise vachement l'ouverture et la possibilité aussi de prononcer d'autres choses. Donc, par exemple, là, quand mon premier spectacle, donc donc L'œuf, la poule, Nicole, je jouais un personnage qui s'appelait Olga von Fleckenstein, et comme ça, et donc toujours, je parlais comme les Allemands font quand ils parlent français, et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir l'oreille pour l'avoir entendu jeune.
Ah, c'est génial.
Sinon, c'est difficile. Voilà, c'est comme quand on essaie de faire prononcer un U à un anglais, si jamais il n'a pas entendu le U très jeune, il dit mais
absolument,
voilà,
absolument, waouh. Eh ben, merci beaucoup déjà pour ces premières réponses, Nicole Ferroni.
Je vous en prie.
On va faire une première pause musicale avec une chanson que je vous propose, parce que je l'adore et que c'est une des plus belles chansons du monde, de la Terre entière, de l'univers.
Ah, carrément.
Voilà, en toute simplicité. C'est une chanson d'une bassiste qui est aussi chanteuse et qui a une voix absolument à tomber par terre extraordinaire, qui s'appelle Michel Ndejeochelo, que je ne désespère pas d'interviewer pour la radio. En attendant, on écoute Oysters de Michel Ndejeochelo. C'est parti.
Just a meteorite. People throwing pennies in a wishing well. Wishing well's gonna run dry, but I ain't gonna leave you tonight. Everybody talking about changing the world. World ain't change, but you can always change in front of me. I'll shuck all the oysters and you can keep the pearl. I do my shucking and my jiving for free. Free. Lie walking down the beach at night. Throw a bunch of lines out.
Et voilà, c'était pour commencer en douceur, Michel Ndejeochelo, Oysters. On est de retour sur Radio Emma avec Nicole Ferroni qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Cyrine, je te laisse poser la deuxième question.
Alors, quel genre d'ado étiez-vous ?
Ah, j'allais dire c'est une bonne question, mais c'est toutes sortes des bonnes questions. Je pense que j'étais une ado qui ressemble beaucoup à l'adulte que je suis et beaucoup à l'enfant que j'étais. C'est-à-dire, moi, je crois que j'ai pas eu de vraie rupture entre mon enfance et ce que je suis maintenant, parce que j'ai pas l'impression d'être devenue adulte en fait, pour le moment. C'est-à-dire que mon caractère de base, je pense que c'est que je suis une personne de nature plutôt joviale et plutôt quoi, je suis beaucoup dans l'imaginaire, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup gardé. J'ai pas l'impression d'avoir acquis du sérieux en grandissant, j'ai plus l'impression d'avoir acquis des expériences, c'est-à-dire que voilà, bah, notamment par exemple quand j'étais prof dans les quartiers nord, ça a été pour moi un moment assez difficile, où vraiment je me suis confrontée à des choses que je supposais pas, mais au final, j'ai toujours quand même eu cette impression que c'était, je veux pas dire l'enfant que j'étais qui se confrontait à ça, mais mon caractère c'est pas beaucoup modifié.
Et du coup, t'avais genre beaucoup d'amis, t'étais pas trop dans la réserve.
Par contre, c'est vrai que moi, je suis très chimpanzé, c'est-à-dire que je suis un animal vraiment grégaire, un animal très social. C'est-à-dire que même si j'ai besoin d'avoir des moments pendant lesquels je suis seule et où je me retrouve avec moi-même, je me nourris beaucoup des autres et de la présence des autres et de l'interaction que j'ai avec eux. Donc j'aime énormément discuter, je suis une très grande bavarde, je suis une très grande oreille aussi, c'est-à-dire que j'aime beaucoup écouter les autres. Là, par exemple, c'est que sur France Inter, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une chronique où je racontais que même les inconnus me manquent. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui... j'aime aller dans les cafés pour, pour des fois regarder les gens ou les entendre. Des fois, même ça m'arrive dans le bus d'avoir... de regarder tellement la personne en face que je ne me rends pas compte que je peux être oppressante à force de l'observer. Je suis là, ah ouais, tiens son journal comme ça, lui. Tiens, c'est marrant. Ce... Voilà. Sinon, après, vraiment, en tant qu'adolescente, j'ai eu la chance, je pense, de ne pas avoir eu de drame, parce que mine de rien, je trouve que l'adolescence, c'est quand même une période qui peut être... Qui, je pense, est peut-être la plus difficile ou une des périodes les plus difficiles dans la vie, notamment parce qu'entre ados, on n'est pas très tendre. Et que, je ne sais pas, j'ai eu la chance d'être bien entourée et d'avoir, voilà, bah, par exemple, je pense que comme beaucoup d'ados, je me suis bourré la gueule quand j'avais 15 ans. Et par exemple, bah, se bourrer la gueule fait que c'est un moment de perte de contrôle. Et moi, je sais, quand j'étais prof, je disais à mes élèves, je sais que vous risquez de vous... Enfin, pas vous risquez de vous bourrer la gueule, voilà. Je sais que statistiquement, il y en a un... Dans cette classe, il y a au moins un élève sur deux qui a déjà pris une cuite. Juste, faites attention, voilà, de boire avec les personnes en qui vous avez confiance ou de veiller les uns sur les autres. Parce que je sais qu'on ne peut pas vous empêcher d'aller acheter de l'alcool et nanana. En revanche, moi, je me disais, c'est vraiment ça qui peut être difficile, c'est quand on fait soit une mauvaise rencontre, soit une mauvaise expérience qui ensuite peut vraiment créer du traumatisme sur du long terme. Et voilà. Et j'avoue que la chance que j'ai eue en tant qu'ado par rapport à d'autres amis, peut-être si je compare dans nos parcours respectifs, c'est que moi, j'ai pas eu de difficultés, d'événements qui m'ont vraiment marqué à ce moment-là. Et d'ailleurs, souvent, je remercie mes amis de ça, quoi.
Moi, ça m'évoque une question. Est-ce que tu penses que c'est lié à l'éducation que tu as reçue, qui peut parfois servir de pare-feu sur des moments où on pourrait basculer, mais on ne le fait pas, justement, parce qu'il y a cette base-là ?
Alors, oui. En fait, moi, quelque chose qui fonde vraiment ma façon d'être, c'est la confiance. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi et j'ai confiance en la vie. Parce que mes parents, en fait, mes parents m'ont beaucoup donné confiance en moi. C'est-à-dire, quand j'étais petite, par exemple, je faisais partie des rares enfants qui avaient le droit de dessiner sur les murs. C'est-à-dire qu'une fois, j'étais en train de dessiner sur les murs et ma mère, elle m'a dit non, alors pas des gribouillages. Par contre, si tu fais des dessins, d'accord. Avec le recul, je trouve ça bizarre, mais bon, moi, ça m'a arrangé. Et mes parents sont des gens. Surtout ma mère est une personne vraiment très insouciante, mais insouciante au point qu'on pourrait dire elle est un peu inconséquente. Donc, par exemple, hier je racontais un truc que mon père m'a rapporté, c'est qu'un jour ma mère elle est allée vérifier le niveau de fuel, de cuve d'essence, voilà, pour le chauffage. Elle y est allée avec un briquet pour voir si, voilà, donc bon, on aurait pu tous mourir en explosion.
Oh là là,
voilà. Mais voilà, ma mère, elle est ce genre de type de personne. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'étais petite, si jamais elle devait faire ses courses au marché, elle me confiait à un marchand en disant « Écoutez, je finis de faire mes achats, je vous la récupère après. » Et voilà, mais parce qu'elle le connaissait régulièrement, et puis donc ça ne lui posait pas de problème. Aujourd'hui, elle se dit qu'elle peut-être elle le referait pas, mais en tout cas, moi, quand j'étais petite, j'ai souvent été dans des situations où... Où finalement ça aurait pu être dangereux, mais ça l'était pas. Et donc c'est ce qui fait que globalement pour moi la vie me paraît pas être un danger et l'autre ne me paraît pas être un danger. En général, j'accorde toujours en premier ma confiance jusqu'à ce que j'ai à lui retirer. Mais ma première impression c'est de me dire bon, on va voir et si jamais il y a matière à me dire qu'il faut que je fasse marche arrière, je fais marche arrière. Et du coup, c'est vrai que l'autre pendant de la confiance en soi, c'est que maintenant, j'ai beaucoup plus de facilité à dire un non. C'est-à-dire que si jamais je sens qu'une relation peut être toxique, j'ai pas de mal à l'éviter et à me dire je ne dois pas ma présence à l'autre. Si cette personne n'est pas bonne pour moi ou s'il y a quelque chose que je ressens qui ne me va pas, je ne me sens pas redevable de quelque chose. Et donc... Donc je pense que ça m'a protégée de situations qui peuvent être difficiles. Ouais.
Très très riche. Est-ce que ça inspire des questions pour vous ?
Non.
Non ? Alors on va s'écouter une petite musique. Mais merci beaucoup Nicole Fioroni, c'est vraiment très très instructif et très intéressant. Revamp Disdain, le dédain Léna, qu'est-ce que c'est que ça ?
En fait, j'ai connu ce groupe grâce à la chanteuse que j'avais déjà entendue dans d'autres groupes. Actuellement, c'est la troisième chanteuse du groupe Nightwish.
J'aime bien que tu promeuves comme ça des chanteuses de... C'est quoi? C'est du metal, hardcore, deathcore?
Je vais baisser le son, j'étais là. Oui, oui, non, voilà.
C'est là que j'interviens.
Ouais, ah. Interviens, s'il te plaît.
Et j'en fais appel à ton expertise. Alors, Adrien. Tu connais, toi, Revamp?
Je ne connais pas. Alors, Nightwish, ça peut être... ça, ce qui est fait de ce qu'on appelle le métal symphonique.
Ouais.
Donc, généralement, c'est dans les... Sans être péjoratif, dans les genres plus accessibles de métal, parce qu'il y a en plus un côté genre plus épique, peut-être moins trash, genre mieux, plus propre, qui fait que ça rend le truc plus accessible, mais aussi que ça rend le truc plus unique, simplement par l'addition d'autres influences. Le métal symphonique, genre le côté épique, ça rejoint par le power metal. Donc après, ces genres peuvent être plus ou moins métal dans les influences, mais le nom, techniquement, on peut qualifier ça de métal. Après, ce groupe-là, je n'ai pas écouté, donc je ne sais pas de quoi...
Mais nous allons vérifier ça tout de suite. Encore merci, Adrien, pour, n'est-ce pas, cet ajout si précieux.
Cette généalogie.
Là, j'ai un live. En même temps, c'est bien parce que ce sera vivant. Ça nous manque. Allez, c'est parti sur Radio Emma. Revamp Disdain.
Are you ready for the next song? And you guys, are you ready for the next song? And you guys, ready? Let's go. Disdain! Betrayed my views and myself, my new.
trouver la bonne mesure pour baisser le son et récupérer la parole. Donc Revamp This Day, magnifique. Moi, j'adore la version live, hein, perso. Merci, Léna.
Ben.
Alors, nous sommes de retour avec Nicole Ferroni dans le studio. Et prêt pour la troisième question, alors.
Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir comédienne, humoriste, mais aussi enseignante diplômée?
Alors, d'abord, je pense que c'est deux métiers, en fait, qui se ressemblent beaucoup, mine de rien. Dans le sens qu'on s'adresse à un public et qu'il y a ce goût de la transmission. Moi, c'est vrai que je me rends compte, je suis quelqu'un qui aime beaucoup transmettre, j'aime beaucoup enseigner. C'est pour ça que dans mes chroniques, j'utilise à chaque fois des images ou des métaphores pour essayer d'expliquer des choses compliquées de façon simple. Ça, c'est quelque chose qui ne m'a pas quittée. Après, c'est vrai qu'il y a quand même des grandes différences. À savoir que quand on est prof, le public n'est pas consentant pour venir nous entendre. Ouais, donc il faut avoir comme cette force de persuasion et puis même avoir la gestion du groupe dans le sens réussir à convaincre des gens qui ont surtout pour envie de partir. Ce qui est moins le cas dans les salles de spectacle. Souvent, les gens, quand ils ont payé leur billet pour venir, c'est qu'ils n'ont pas envie de quitter la salle tout de suite, en tout cas. Et après, moi, à titre personnel, c'est vrai que ce qui a fait que j'ai préféré passer de l'un à l'autre. Alors d'abord, ce qui a fait que je suis devenue prof plutôt que comédienne, c'est que comédienne, globalement, socialement, c'est encore pas reconnu vraiment comme un métier. C'est-à-dire que quand moi, j'ai dit à mes parents ou autour de moi que je voulais peut-être faire du théâtre, on m'a dit « Ah oui, oui, mais en loisir. » en loisir ou pas, si jamais j'arrive à en faire un métier, tant mieux. Mais je voyais que ça a coincé. Et ça a coincé, y compris auprès de moi-même, parce que, en fait, moi, quand j'ai fait mon parcours d'études pour devenir prof, entre la licence et la maîtrise, j'avais pris une année sabbatique pour essayer de faire du théâtre. Et en fait, j'avais fini par faire du théâtre, jouer dans une pièce quand même. J'avais eu, on va dire, un premier contrat professionnel. Et on était quatre sur scène. Et en fait, à l'issue de un mois de répétition et de un mois de spectacle, j'avais gagné 400 euros. Et là, je me suis dit, gagner 400 euros pour deux mois de travail, ça va pas être possible. Voilà, c'est-à-dire, moi-même, je me suis heurtée au fait qu'on peut pas forcément vivre de son métier dans ce cas-là. Puis donc, j'avais pris la voie de la sagesse qui était peut-être plus celle de l'enseignement, qui m'aurait permis d'avoir un public aussi, mais aussi d'avoir un salaire. Et finalement, ce qui a fait que je suis passée de prof à re-comédienne, c'est que... D'abord, c'est qu'il y a un président, Nicolas Sarkozy, qui a supprimé des postes de prof, dont moi. Hey, maintenant, je peux lui dire merci, Nicolas. Et c'est ce qui a entamé le fait que je me décide à envisager une autre voie, vraiment. Et après, ça correspond mieux, je pense, maintenant à ce que je suis vraiment, parce que je me rends compte que je ne suis pas une leader. Et quand on est prof, il faut avoir l'envie d'être capitaine de son bateau, alors qu'en fait, moi, j'ai un peu du mal avec les relations sociales qui sont, qui sont verticales. C'est-à-dire, j'ai un peu du mal avec soit avoir une hiérarchie, soit au contraire, être moi-même le supérieur de quelqu'un. C'est vrai que la relation prof-élève, encore, pour moi, elle est difficile à gérer parce que c'est construit actuellement d'une façon où ça me donnait l'impression de devoir gérer des élèves. Alors qu'en fait, moi, j'aime pas, dans une relation humaine, qu'on se gère les uns les autres. En fait, je préfère travailler dans une relation qui est plus horizontale, c'est-à-dire avec des gens qui sont socialement, on va dire, du même, je ne vais pas dire du même niveau que moi, quoi, mais comme sur cette table, dans ce studio radio, quoi, c'est-à-dire d'avoir les gens à mon niveau et pas d'être moi sur une estrade et mes élèves en bas. Et puis après, l'autre gros avantage dans le fait d'être comédienne ou humoriste, c'est la liberté. Ce qui m'a beaucoup heurtée, moi, quand j'étais prof dans l'éducation nationale, c'est que en fait, il y a vraiment des codes d'enseignement, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit vraiment d'enseigner comme on veut. Moi, par exemple, je suis quelqu'un... Quand j'étais élève, j'aimais beaucoup les profs qui étaient des conteurs, c'est-à-dire que j'aimais beaucoup les profs qui racontaient des histoires et qui avaient la capacité de véhiculer du savoir en racontant à leur façon, ça pouvait être l'histoire de France, ça pouvait être la photosynthèse. Et en fait, quand je suis arrivée dans l'éducation nationale, on nous a appris, en gros, qu'enseigner comme ça, c'était plus la bonne méthode. C'est-à-dire que maintenant, Justement, il fallait plus considérer que le prof était détenteur du savoir, mais qu'il fallait construire le savoir avec ses élèves. Donc sur le papier, c'est très beau et c'est une bonne idée. Mais dans la réalité, je n'ai pas trouvé que c'était une bonne idée parce que se dire que du coup, on ne peut plus raconter d'histoire, ben, en fait, moi, ça m'a démunie. Moi, je sais que j'avais aimé ça en tant qu'élève, je sais que j'aurais voulu transmettre ça en tant que prof, et là, d'un coup, ça m'était interdit. Alors que en tant qu'humoriste, c'est cool parce que maintenant je suis payée pour raconter des histoires. Donc après, ce qui était cool, c'est que moi j'étais remplaçante pendant longtemps. Donc j'étais ce qu'on appelle TZR, c'est-à-dire titulaire en zone de remplacement. C'est un truc qui n'existe pas au foot. Hein. Au foot, on est soit titulaire, soit remplaçant. Et à l'Éducation nationale, ils ont inventé le concept d'être remplaçant, enfin voilà, d'être titulaire de son remplacement. Donc c'est bon. Et par contre, la chance que j'avais, c'est que quand on est remplaçante, même si on se fait bizuter, parce que c'est vraiment, voilà, c'est quasiment obligatoire, on est là pour 2 semaines, donc les élèves, presque, en fait, le jeu, c'est de savoir combien de temps la remplaçante va tenir. Mais du coup, comme moi, je savais que j'allais pas être inspectée, en fait, je faisais un peu ce que je voulais. Et notamment, je faisais des ateliers d'écriture. En fait, je me disais, de toute façon, j'ai pas le temps en 2 semaines, je vais pas avoir le temps de faire des SVT. Parce que je leur disais, le temps que vous me testiez, que moi je vous envoie en heure de colle, nanana, je dis, c'est trop long. Donc en fait, au lieu de travailler sur les volcans, parce qu'on est d'accord que de toute façon, il y a une personne sur deux ici, qui n'a pas envie de travailler sur les volcans, je dis, je suis là que pour 2 semaines, donc on va faire des ateliers d'écriture, et du coup, je fais des ateliers d'écriture avec eux. Et...
C'est génial le cours de SVT qui finit en slam, tu
voilà,
sais.
Voilà, mais c'était complètement ça. Et des fois, j'avais des élèves qui arrivaient en retard, qui disaient, madame, pardon, excusez-moi, mais j'ai rien compris, quel rapport avec les volcans? Je dis, non, aucun.
Mais alors, ça induit aussi une autre question, c'est est-ce qu'il y avait de l'humour dans vos cours?
Ouais. De l'humour, mais parfois pas compris. Ça, c'était mon gros problème. Par exemple, en cours d'SVT, des fois, on faisait des dissections de grenouilles ou de crabes, voilà. En fait, j'avais des élèves qui me disaient, mais madame, après, vous faites quoi des grenouilles? Je dis, des keftas, on fait des boulettes de grenouilles.
Non.
Et après, on fait un grand barbecue entre profs d'SVT. Et me disaient, non, mais ah bon? Et tout, je dis, non, Jérémy, on fait pas ça.
Voilà. Bon, eh ben merci encore une fois pour tout ça. On continue l'émission avec Nicole Ferroni, on est ravis de ce moment. On va s'écouter maintenant Little Mix Secret Love Song. Ça, c'était un choix de Cyrine.
Oui.
Featuring Jason Derulo, rien que ça.
Ah, allez.
Qu'est-ce que tu veux nous dire sur cette chanson?
Rien.
Ouais, c'est bien aussi. Laissons le silence parler.
J'ai pas envie de parler.
Elle te plaît en tout cas déjà?
Oui.
Ça commence avec ça. Juste comment tu l'as connue pour savoir?
Ma sœur.
C'est ta sœur qui t'en a parlé? Super. Vous l'écoutez ensemble?
Non.
D'accord.
Elle la chante.
Ouh.
Je lui ai dit de la fermer.
Le rebondissement. Eh bien écoute, nous en tout cas, on va l'écouter aussi, mais donc par les auteurs même de la chanson Little Mix, Secret Love Song, c'est parti sur Radio Emma.
When you hold me in the street and you kiss me on the dance floor, I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours. We keep behind closed doors. Every time I see you, I die a little more. Stolen moments that we steal as the curtain falls. It'll never be enough. It's obvious you're meant for me. Every piece of you, it just fits perfectly. Every second, every thought, I'm in so deep. But I'll never show it. Can you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours.
When you're with him, do you call his name like you do when you're with me? Does it feel the same? Would you leave if I was ready to settle down? Would you
play it safe and stay. Girl, you know this. We got a love that is hopeless. Why can't I? Why can't I kiss you on the dance floor?
I wish that we could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours, I'm yours. Oh, why can't you?
Kiss you on the dance floor. Little Mix, Secret Love Song avec Jason Derulo. Ta sœur, elle faisait qui, Jason Derulo, ou la voix féminine?
La voix féminine.
Ah, d'accord. Et là, c'est mieux quand même.
Ah oui, c'est mieux.
Et on est de retour à Radio Emma avec Nicole Ferroni.
Radio Emma.
On va se les enregistrer, ces jingles. Alors, Adrien, je te laisse poser la quatrième question. Bravo.
Après, comme je fais des réponses très longues, en fait, on croit qu'il y a beaucoup plus de questions.
Mais c'est peut-être pas grave. En vrai, on n'est même pas obligé de les numéroter, finalement. La question suivante, en fait, je vais dire ça.
Alors, est-ce que votre adolescence a eu une influence sur votre parcours professionnel?
Est-ce que mon adolescence,
je complète, en fait, avec une découverte ou une rencontre ou une passion.
En fait, oui, ça, c'est sûr, mais je vais dire, est-ce que c'est mon adolescence ou plus quand j'étais jeune adulte? En tout cas... Il y a quand même, je veux dire, j'ai quand même eu un virage, je pense, dans mon adolescence, où je vais me contredire par rapport à ce que j'ai dit précédemment, parce que de toute façon, je nierai avoir menti. Non, non peut-être, comment dire, ce qui a changé à l'adolescence, je pense que c'est quand même mon cercle amical. Ben, je pense qu'en fait, l'adolescence, c'est peut-être un moment vraiment fondateur sur les amitiés qu'on lie. Moi, je vois, je suis quelqu'un très fidèle en amitié. Et enfin, c'est pas fidèle en fait, c'est que parce que c'est pas tellement que j'ai de la loyauté envers l'autre, c'est que je m'accroche à l'autre et je ne le lâche pas. Donc j'ai des amis que j'ai depuis l'école primaire, et après voilà, j'ai des amis que j'ai rencontrés à l'adolescence et qui me suivent ou que je suis depuis et qui, je pense, ont été quand même fondateurs dans ma façon d'être et de voir la vie et puis peut-être de créer mon parcours professionnel. Donc par exemple, une des personnes que j'ai rencontrée à l'adolescence, il s'appelle Thierry Ayo. Donc c'est un très bon pote à moi. Et lui est quelqu'un d'assez créatif. C'est au final, par exemple, c'est lui qui a fait d'ailleurs l'affiche de mon premier spectacle. C'est avec lui que j'ai coécrit, pas vraiment coécrit, mais lui l'a illustré, ou bref, un livre que moi j'ai écrit. Et c'est une rencontre qui je pense a été quand même très importante dans mon parcours professionnel, parce que le fait d'être en face de quelqu'un qui est lui aussi très créateur, je trouve que la création, en fait, ça, je ne sais pas comment dire, c'est comme la vinaigrette, quoi. Il faut de l'huile d'olive et du vinaigre. Ben, quand il y a les deux, c'est mieux, quoi. Et donc, je pense que ça fait partie d'une des relations amicales qui, peut-être, m'a le plus tiré vers le haut dans mon envie de, moi-même, d'être plutôt humoriste ou créatif que de rester peut-être sur une vie plus sage. Voilà. Mais sinon, après, parmi les découvertes qui ont vraiment fondé ma pratique professionnelle, je pense j'ai eu vraiment deux grands coups de cœur. Il y avait mon prof de théâtre qui s'appelait Gilles Azopardi, qui est décédé l'année dernière, qui est quelqu'un, donc c'est un artiste marseillais, et qui avait, je trouve, cette intelligence de se dire, comment dire, de beaucoup respecter la nature de la personne. C'est-à-dire que c'est vrai que souvent, je pense qu'en tant que prof, on peut peut-être avoir l'envie de, comment dire, bah, d'amener des choses à l'autre. Et lui, il avait vraiment ce truc de se dire, bon, toi, tu es comme ça. Et des fois, même, tu es quelque chose que tu ne sais pas encore que tu sais que tu es. C'est-à-dire que, par exemple, moi, des fois, j'écrivais des sketchs et je voulais tellement faire rire qu'en fait, il y avait des fois, j'écrivais des sketchs qui n'étaient pas drôles, mais pas parce que juste il manquait d'humour, mais parce que le fond n'était pas drôle, parce que je voulais véhiculer un message qui pouvait être triste, bah, notamment, par exemple, dans le personnage dont je parlais tout à l'heure, Olga von Fleckenstein, qui était dans mon spectacle. C'était censé être une diva qui avait eu une histoire d'amour vraiment dramatique qui s'était très mal terminée. Et donc, en fait, elle prenait de la drogue, elle buvait sur scène et tout. Et en fait, des fois, lui, il me disait, mais n'essaye pas de faire rire absolument avec ça, parce qu'en fait, c'est la vie, c'est aussi ça. Et donc, tu peux t'offrir dans un spectacle d'humour des moments où il n'y a pas d'humour. Et au contraire, respecte ce moment-là. Et voilà, lui, c'est quelqu'un qui m'a vraiment guidée là-dedans, qui m'a dit, en fait, on peut être une humoriste qui ne fait pas rire. Et il faut respecter aussi la partie pas drôle, des fois, de la vie, quoi, entre guillemets. Et l'autre rencontre qui a, je pense, été fondatrice, c'est le slam. Pour de vrai, c'est vraiment une pratique que j'ai rencontrée, j'allais dire, sur une porte. En fait, j'avais juste une copine à moi qui avait un flyer, voilà, d'une soirée slam qu'elle avait collé sur la porte. Et puis, j'avais juste lu un article sur ce qu'était le slam. Et au final, j'ai noté l'adresse, j'ai noté l'horaire. Et j'ai demandé autour de moi qui voulait venir avec moi à une soirée slam. En gros, en fait, on dit une soirée slam, mais c'est une soirée scène ouverte. Hein. Le concept d'une soirée slam, c'est de se dire, bah, t'as 3 minutes pour passer sur scène. Et on peut même arriver sans texte et l'écrire sur place. Et j'ai trouvé personne pour y aller. Et je me suis dit, bon, vas-y. Voilà, vas-y seule, prends ta petite voiture, etc. Et je suis allée donc à un café qui s'appelait le Paradoxe Café. Maintenant, il porte un autre nom. C'est rue d'Aubagne. Et je me suis retrouvée dans un endroit qui, pour moi, était vraiment magique parce que, en fait, je me suis rendu compte que dans la société, il y a très peu de places où se croisent les gens. Il y a très peu de places où se croisent les gens, il y a très peu de places où les gens se parlent. Je parle des gens qui ne se connaissent pas entre eux. Je veux dire, me retrouver dans une pièce avec des gens que je ne connais pas et écouter l'autre et lui parler, c'est finalement assez rare. Et là, le concept d'une soirée slam, c'est vraiment ça. C'est qui que tu sois, viens, monte sur scène, dis ce que tu veux. Ça peut être en plus n'importe quelle forme. C'est-à-dire que moi, les premières soirées slam où je suis allée, dans la même soirée, il y avait une slameuse qui s'appelait Philomène, qui est une nana qui avait 65-70 ans, qui écrivait des poèmes sur son petit-fils. Juste après, il y avait un mec qui faisait du rap, mais du gros rap à base d'insultes et nanana. Et au final, beaucoup de respect les uns envers les autres, beaucoup d'écoute. Et puis aussi, il y avait une telle liberté que finalement, je me disais, on peut venir avec n'importe quoi comme type de texte et produire et le proposer. Et donc, pas de censure personnelle. Et du coup, je pense que c'est voilà, le fait d'avoir ces deux rencontres-là, à la fois Gilles Azopardi, voilà, qui m'a vraiment guidée dans le théâtre et dans la pratique de comédienne, et à la fois le slam qui m'a plutôt guidée dans l'écriture et dans le fait de me dire n'importe qui peut écrire s'il veut écrire. Ben, je pense que ça a été très fondateur dans ce que je fais aujourd'hui.
Eh ben, merci. C'est vrai que c'est très fort. Et c'est vrai que les scènes ouvertes, c'est un peu l'école de la vie, quoi.
Ah oui.
C'est très, très, très formateur.
Ben, c'est ce qui fait qu'après, des fois, quand justement j'étais remplaçante, j'aimais bien faire des ateliers d'écriture avec mes élèves parce que je savais que je leur apporterais plus en 2 heures d'atelier d'écriture que si j'allais faire 2 heures sur les volcans. Parce que quand on a fait 2 heures sur les volcans, on se rencontre moins qu'en 2 heures de slam.
Et ça a donné lieu d'ailleurs à des choses un
super,
peu intéressantes.
Mais des trucs, bien sûr. Ouais, j'ai vécu des moments, des élèves qui se sont vraiment révélés, et des élèves ou des situations, Enfin, je me rappelle notamment une fois, j'ai un élève. Pardon, je fais des réponses très longues, je peux quand même.
Ah non, mais c'est très riche. J'adore. On a le temps pour une fois, justement. Okay. On n'est pas dans le truc de non, on n'a pas le temps.
D'accord. Oui, mais j'ai tellement l'habitude du bip à la radio. Moi, je sais qu'après il y a.
Non, on est dans le timing. Voilà, ça, pour le coup, tranquille.
D'accord. Une fois, j'étais partie avec. C'était avec une classe de 6e que j'avais en demi-groupe au collège Romain Rolland à la Capelette. Et en fait, cette année-là, donc, j'ai décidé de faire avec mes 6e une fois un atelier d'écriture. Et je pars sur une consigne très simple, c'est que j'étais partie d'un morceau de soprano qui s'appelle Moi, j'ai pas. Donc, voilà. Donc, en fait, il avait écrit tout un texte où il disait Moi, j'ai pas la carrure de Mohamed Ali, moi, j'ai pas, nanana. Et donc, je pars sur ce concept-là d'écriture. On démarre par Moi, j'ai pas. Et puis après, on dérive sur « moi, je ne suis pas », et puis « moi, j'ai » et « moi, je suis ». Et en fait, j'ai un élève qui s'appelait Souleymane, qui, je pense, avait une grande confiance en lui. Et lui, voilà, il était là. Et donc il dit moi j'ai, et donc moi je suis, il dit moi, alors moi je suis intelligent, moi je suis bon en maths, et moi je suis, et genre mais que des trucs, voilà, et puis j'ai, je sais plus ce qu'il avait, genre ouais, les Nike, je sais plus lesquels, et ta. Et en fait, donc la consigne que j'avais donnée, c'était bah, vous, ceux qui veulent, vous n'avez pas d'obligation, vous pouvez venir lire votre texte aux autres élèves. Et après, je demandais aux autres élèves, qu'est-ce que vous avez retenu de lui ? Et en fait, donc, Souleymane lit son texte. Et après, qu'est-ce que vous avez retenu de lui ? En fait, ils avaient retenu quasiment tout, sauf « je suis gentil ». Et je vois qu'à un moment donné, il se vexe. Et donc, il dit « Ah, mais il n'y a personne qui a dit « moi, je suis gentil » et tout ». Il dit « Alors, franchement, moi, alors que moi, je suis gentil, moi... » Il dit « Ouais, moi, par exemple, les Roumanies, je leur donne des sous, les Roumanies. » Et en fait, dans cette classe-là, j'avais une élève qui était roumaine, qui était arrivée, je crois, 2 ans avant, en France. Christina, elle s'appelait, une élève... très très discrète, une élève dont j'entendais quasiment jamais la voix parce que elle, comme elle parlait pas très bien français, elle osait pas parler à voix haute. Et puis du coup, elle était vraiment très très discrète, quoi. Et là, elle était au fond de la salle et quasiment, mais elle hurle dans un sanglot en disant, elle dit, t'arrête, tu dis pas qu'on est les Roumanies parce que nous on est en France et nous on fait ce qu'on peut, on est gentils, vous dites nous on est les voleurs, vous dites nous on est sales, mais nous c'est pas comme ça, tu connais pas mon pays. Et vraiment elle est partie dans... Alors que toute la classe avait jamais entendu sa voix, ce jour-là on a tous fait... Et il y a du coup après une vraie discussion sur le regard sur la population roumaine et notamment comment elle vivait aussi le regard qu'on avait sur elle, comment elle vivait le déracinement vis-à-vis de son pays et tout. Et vraiment, j'étais pas partie pour avoir une discussion aussi forte avec ses élèves. Et je pense que de ce jour-là, on a c'est passé beaucoup de choses dans la classe.
Ah ouais, j'imagine, une grosse connexion en plus du coup. Mmh. Et même qui a dû perdurer par-delà le remplacement.
Ouais, je pense.
C'est-à-dire qu'entre eux, ça a dû faire une cohésion et ça a dû resserrer des liens dans la classe. Eh ben, merci Nicole Ferroni, comme toujours. On va continuer, avec votre chanson « Wait a minute ».
Ouais, moi c'est le truc sous la douche encore.
« Wait a minute, Willow Smith ».
Consciousness in the
c'est Anjaye, wait a minute, Willow Smith. On est de retour sur Radio Emma avec Nicole Ferroni.
Oui, toujours. C'était... Je ne suis pas partie.
Merci d'être restée. D'ailleurs, ça, c'était la phrase de Benabar dans ses concerts. Il disait « Merci d'être revenue, merci d'être restée ». C'était sa grande phrase de fin de concert, ce qui était pas mal du tout, effectivement, quoi. Donc ouais, on a retracé toute une partie du parcours qui était très riche. Et c'est vrai qu'on sent que l'enseignement est quand même resté une partie importante de ce parcours. Mais enfin, il y a quand même aussi toute la partie humour, découverte du milieu un peu du showbiz, du spectacle, de la télé. Est-ce que pour une Aubagnaise
ouais.
comme vous, ça a été un pas en avant qu'il a fallu franchir ou est-ce que ça s'est fait progressivement?
Ça s'est fait. Alors, ça s'est pas fait progressivement parce que, en fait, moi, je suis vraiment tombée dans le milieu de l'humour via l'émission On demande qu'à en rire. C'est-à-dire que, je veux dire, avant, je faisais de l'humour, je veux dire, chez moi, quoi. Et c'est vrai, en fait, quand j'ai créé mon spectacle, donc c'était en novembre 2010, et en fait, j'ai démarré l'émission On demande qu'à en rire en février 2011. Donc, ça veut dire que j'avais
juste après, quoi.
Juste après, je crois que j'avais joué 5 fois sur scène. Quand j'ai démarré cette émission-là. Et en fait, l'émission en question, donc elle était diffusée de 17 à 18 heures tous les jours. Moi, je ne la faisais pas tous les jours, mais j'y étais une fois par semaine. Et en fait, c'était un public qui était très fidèle. C'est-à-dire que c'est une émission pour laquelle je vois que les gens m'en parlent encore, pour laquelle il y avait vraiment une très forte adhésion. Et donc, mécaniquement, ça a fait que je suis passée en fait très vite de pas connue à quelqu'un avec une petite notoriété. C'est-à-dire à quelqu'un que des fois voilà, on reconnaît dans la rue.
Exposé, et fait, donc reconnaissable.
Mais vous êtes Nicole Ferroni, ah voilà, nanana. Ouais. Et quand on a un public, en termes de carrière ou de business, on devient quelqu'un de rentable. C'est le principe moi, je ne suis pas Bradley Cooper ou je ne suis pas encore Selena Gomez, mais... C'est vrai qu'à partir du moment plus on a un public, et plus potentiellement on devient quelqu'un, de bankable, quoi. Donc, c'est-à-dire de quelqu'un dont on sait que si on le met sur scène, on va avoir un public prêt à payer éventuellement pour venir le voir. Et en fait, voilà. Par contre, c'est vrai que j'ai pas eu du coup moi dans mon parcours la graduation que les autres artistes ont connue, qui est normalement un comédien quand il démarre, il démarre d'abord. Dans un petit café-théâtre autour de chez soi. Puis après, il fait un festival. Puis après, il fait de festival en festival, il fait d'autres salles, mais sur des salles de 50 places. Moi, quasiment, en fait, j'ai presque fait une salle de zéro à potentiellement des salles de 300 personnes qui pouvaient être remplies. Et donc, c'est mis en place autour de moi des producteurs qui viennent voir en disant « J'aime beaucoup ce que vous faites », et tatata. Et ça, en fait, c'est pas évident quand on sait pas, quand on n'a pas la connaissance du métier. Par exemple, moi, je me rappelle très bien qu'un des premiers festivals que j'ai fait, il y a des producteurs qui sont venus me voir. Donc, je savais pas qu'en fait, ils étaient vraiment producteurs. Et donc, ils me disaient, ouais, Nicole, on aime beaucoup ce que tu fais. On aimerait t'organiser un showcase à Paris. Ah, ok. Et donc, un showcase en soi, je me dis, c'est intéressant. C'est-à-dire, les mecs, ils louent la salle. Or, une salle à Paris, pour la louer, ça vaut cher. Mais quand même, j'essaye de comprendre le concept. Je dis, mais alors, c'est-à-dire un showcase. Il dit, il n'y aurait pas de billetterie, c'est-à-dire on fait gratuit, notamment on ouvre aux professionnels. Nous, on loue la salle, on s'occupe de tout et tout. D'accord, ok. Et puis, je me dis, il y a quand même un problème. Je me dis, mais comment les mecs comptent gagner de l'argent avec ça? C'est-à-dire, ils vont louer la salle et il n'y aura pas de billetterie. Donc, ils ne vont pas récupérer de l'argent. Donc, évidemment, je suis très belle, je le comprends, qu'on a envie de me financer des choses. Non. Bref, j'aurais dit, j'ai un truc que je ne comprends pas, c'est parce que vous n'êtes pas non plus, on n'est pas amis. Donc, quel est le concept? C'est-à-dire, comment vous comptez, en fait, vous financer sur ce type d'événement? Parce que là, vous allez perdre de l'argent, on est d'accord? Et puis, il me dit, ouais, mais nous, on aime beaucoup ce que tu fais. Je dis, non, oui, d'accord, ok, mais donc. Et puis, en fait, ils m'ont dit, non, le concept du showcase, c'est qu'on fait venir des professionnels, et si eux veulent acheter ton spectacle, ensuite, nous, on prend une com, ensuite, qui a un droit de suite de 10% sur toutes les dates à venir. Et moi, en fait, j'avais jamais joué à Paris à ce moment-là. Et donc, j'aurais dit, c'est-à-dire que là, si maintenant je fais ça, vous prenez 10% sur toute la suite, quelle que soit la longueur de la suite, etc. Ils m'ont dit, oui, voilà, c'est ça le concept. Et du coup, j'ai dit non. J'ai dit non.
Parce que... Ça, c'est le petit astérix qu'il fallait lire
voilà,
en dessous.
Voilà. Et ça, en fait, il faut quand même. C'est-à-dire que quand on n'a pas la connaissance de la pratique d'un milieu, ça demande d'avoir une certaine vigilance. Et oui, puis après, il faut aussi savoir que l'humour, comme on est tout seul sur scène, c'est très business parce qu'on a un spectacle qui coûte très peu cher et qui peut rapporter beaucoup. Par exemple, que ça soit Gad Elmaleh, que ça soit Jamel Debbouze, Florence Foresti, Enfin, les artistes, quand on est tout seul sur scène, ça veut dire qu'on... Il n'y a qu'un seul salaire, contrairement à une comédie musicale, les 10 commandements, voilà, où ils sont 24. Et donc, gagner de l'argent sur le dos d'une personne, c'est beaucoup plus simple que quand elles sont 8.
Mais bravo, en tout cas, déjà d'avoir eu cette distance et cette capacité, cette sagesse aussi, de renoncer finalement à une possibilité d'exposition et pour le coup de se faire connaître d'autres professionnels, ce qui aurait pu être tentant, enfin, je veux dire, quand on débute, etc. Donc bravo d'avoir su faire marche en arrière sur ça et se laisser la chance de rencontrer le public et les professionnels autrement.
Oui, oui, et puis après, moi, du coup, j'ai fait le choix, en fait, après, de rester en autoproduction quasiment. C'est-à-dire qu'en fait, moi, celui qui s'occupe de l'administration de mon spectacle quand je fais des spectacles, c'est l'ancien programmateur de la MJC d'Aubagne.
Voilà. Fidèle, hein, quand même.
Fidèle. Voilà, c'est, lui, il est parti vivre dans le Lot, mais en fait, lui, il a fait une reconversion professionnelle en même temps que moi. Et en fait, moi, je lui ai dit, écoute, là, autour de moi, il n'y a que des producteurs que je ne connais pas.
Il n'y a que des requins.
Ouais, enfin, peut-être pas des requins, mais en tout cas, je peux pas savoir si la personne aime mon travail ou si elle aime le fait que je peux lui rapporter de l'argent.
Ouais.
Et donc, du coup, je travaille qu'avec lui. Et en fait, c'est vrai que je fais moins des grosses salles que des gens de notoriété équivalente. Mais en fait, comme je suis plus protégée, au final, je fais que les choix que j'ai envie de faire. Il n'y a personne qui décide de mes dates de tournée. Parce que moi, voilà, j'ai des amis qui ont fait des burn-out parce qu'ils ont fait tellement de tournées qu'il y a des fois où ils se sont évanouis sur scène. Et moi, ce n'est pas mon cas. Moi, je travaille en direct avec toutes les salles. Et du coup, oui, effectivement, on me verra peut-être pas à l'Olympia, on me verra peut-être pas...
Qui sait ?
On ne sait pas.
Voilà. Qui sait ?
Sur des colonnes Maurice, comme ça, là, avec ma tête en grand. Mais du coup, j'ai une liberté que je pourrais pas avoir par ailleurs.
Mais non seulement elle est précieuse, cette liberté, mais il y a une façon un peu artisanale dans ce que vous décrivez par rapport à cette organisation, mais qui reste aussi à dimension humaine.
Mm-hmm.
Et finalement, c'est ça qui reste le plus authentique, quelque part.
Oui, et puis même la qualité de la relation, parce que par exemple, quand les artistes sont produits, il faut savoir que souvent, une production, elle met autour d'un artiste beaucoup de personnes. Elle va mettre un attaché de diffusion, un attaché de production, un agent de presse, nanana. Et du coup, ça met beaucoup d'intermédiaires entre l'artiste et le programmateur de la salle. Et des fois, j'ai vu des salles avoir des mauvaises images d'artistes que moi, je connais, qui sont des personnes adorables. Mais parce qu'en fait, des fois, la production a dit « Non, mais lui, il faut qu'il soit logé dans un 4 étoiles. Il faut un taxi entre l'hôtel et le truc, alors qu'il y a 100 mètres entre l'hôtel et la salle. »
Alors que la personne serait venue
alors
tout à fait
personne,
simplement...
Alors que la personne serait tout à fait venue à pied.
Bah ouais,
et en fait,
ça.
Quand il y a des intermédiaires, il y a aussi ce risque de ne pas être représenté tel qu'on est, en fait.
Bien sûr. On approche de la fin de l'émission, donc on va écouter le choix musical de Adrien. Mais merci pour ça. Et puis j'aimerais finir en dernière partie aussi peut-être par évoquer un peu le monde du stand-up, parce qu'en ce moment, ou de l'humour en France, parce que c'est un peu l'âge d'or de ça en ce moment. Et on a la chance quand même de pouvoir vivre cette période-là en temps réel, ce qui est quand même assez rare. On en rediscutera après. Adrien, alors, Within Destruction.
Alors,
je l'ai fait le plus guttural possible. Hein.
Alors, à la base, c'est un groupe slovène de slam, mais pas de slam que vous pensez.
Alors, non, déjà, un groupe slovène de slam, moi, j'adore, j'achète tout de suite.
Alors, le slam, c'est
le
aussi
truc obscur, tu vois.
Un sous-genre de métal extrême qui est connu par sa brutalité et des éléments de musique qu'on appelle des slams, que je ne savais pas vraiment comment décrire. Mais c'est un peu dans la même veine qu'un breakdown, c'est-à-dire genre une section de la chanson où il se passe un truc particulier, genre codifié, et genre les gens qui écoutent ça, ça leur plaise et ils en veulent plus.
D'accord.
Mais là, sur cet album, ce groupe-là, déjà qui se prenait pas trop au sérieux, ont fait leur choix de pas vraiment se prendre au sérieux et de faire un truc vraiment spécial qui a plu à quasiment personne.
Et que sauf à nous.
Exactement.
Ouais, sauf à moi et certaines personnes. Parce que, ouais, ils ont décidé de mélanger du deathcore. Parce que, ouais, ils faisaient du slamming deathcore, tu vois, encore des mélanges de genres, encore plus de genres.
Ouais.
Et de mélanger ça avec de la trap.
Ouais.
Et je trouve, moi qui n'ai pas vraiment dans ces genres-là, je trouve que ça fait vraiment une fusion vachement intéressante. En plus de ça, genre, il y a des fois des mélanges genre, d'instrumentation un peu japonaise. Mais bon, là, la seule influence japonaise, c'est qu'il y a un featuring d'un rappeur japonais.
Ok.
Le seul bémol de cette chanson, cet album en général, c'est les paroles qui sont assez stupides. Ouais, elles sont stupides, les paroles. Mais genre, quand tu prends pas ça au sérieux, genre, ça, je trouve ça génial. Le clip, il est super bien fait, très original pour le genre. Parce que genre, c'est tout des tas de références à des... C'est le groupe qui se met en scène sur un fond vert, genre avec des tas d'effets, de mise en scène, genre de références à des animés genre, qu'ils aiment. Enfin, c'est aussi des gros fans d'animés, visiblement. Donc,
voilà. Écoute, c'est déjà pas mal. Merci, Adrien. Comme toujours, ces présentations uniques et iconoclastes. Je crois que j'aimais bien ce mot. Mais en tout cas...
Iconoclaste, ça veut dire quoi?
Variée, puis un peu curieuse, non? Je crois que j'irais ça.
Ça commence direct, mais ça devient intéressant après.
Oui, alors comme d'habitude, ben voilà, accrochez vos oreilles, sinon elles vont sortir de votre tête avec les chansons d'Adrien. Et en même temps, ça m'éclate parce que c'est vraiment, fallait trouver la niche de ce truc-là quand même. Ouais. C'est balèze. Eh ben écoute, on va essayer de se régaler avec ça. En tout cas, on va découvrir Within Distraction, Bang Bang. C'est parti. Distraction, bang, bang, waouh, ça dépote. Alors, on est censé terminer maintenant, mais c'est vrai que j'aimerais bien revenir quand même rapidement sur cette, sur ce passage. Est-ce que vous avez des questions que tout ce qu'on a dit vous inspire, etc.
Ouais, peut-être, mais je sais pas si ça va être long ou pas.
T'inquiète.
Au pire, je répondrai pas.
Vas-y, Adrien.
Alors, ce serait sur vous et la musique en général.
Ah.
Moi et la musique en général, en fait, alors je suis désolée parce que je pense blesser le cœur de Mika, qui est que le seul truc que j'ai du mal à écouter, c'est le jazz contemporain.
En fait, il faut connaître, faut ouais. être éduqué, c'est un peu comme l'art contemporain.
Peut-être.
Mais... si on n'a pas les bonnes clés.
Non, mais je sais que des fois ça m'est arrivé d'être des trucs, il y a du jazz contemporain, et en fait, je pense que mon cerveau aime pas les trucs dissonants.
Ah, mais moi non plus.
Et
attention.
Du coup, je me hérisse dès que j'entends. J'ai l'impression que quelqu'un passe une fourchette sur un tableau, j'ai des poils. Sinon, moi, j'écoute pas de tout. Par contre, moi, j'avoue, mon péché mignon, c'est que je suis très friande des trucs commerciaux. C'est-à-dire que les gens, par exemple, comme je fais des chroniques à France Inter, on pense que j'écoute la playlist de France Inter. Pas du tout. J'écoute Mistral FM, Maritima. Non, mais par exemple, j'écoute du Joule des fois et tout. Hein.
Ouais.
Des fois, je fais du footing en écoutant du Joule. Globalement, comme je suis curieuse, j'aime écouter de tout. Du métal, par contre, j'en écoute peu ou pas. Et par contre, voilà, je suis beaucoup pour la musicothérapie. C'est-à-dire que je pratique beaucoup la musicothérapie sur moi-même. C'est-à-dire que j'ai vraiment des chansons qui me servent à certaines choses. Et notamment, par exemple, quand des fois je suis en tournage, que je veux préparer une scène, j'essaie de trouver quelle chanson pourrait m'aider à préparer cette scène. Et vraiment, il y a des fois, je trouve que c'est magique. Si, par exemple, j'ai du mal à rentrer dans l'ambiance d'une scène en particulier... des fois il suffit que j'écoute en boucle un petit morceau la veille nanana, et qui me permet de m'immerger dans le personnage et ça marche très bien. Notamment je l'ai fait donc là par exemple pour la série Mental. Dans la série Mental
je me permets de dire que vous êtes très juste du début à la fin des deux saisons.
Vraiment. Ah merci. Et notamment j'avais une scène à jouer avec donc le personnage s'appelle Max et donc dans la vraie vie elle s'appelle Déborah, où elle a tout un questionnement sur le rapport au corps parce que donc c'est un personnage qui a des troubles alimentaires et qui est en lutte avec ça. Et en fait, il y a une chanteuse française qui s'appelle Iseult, qui a un album qui s'appelle Corps.
Et elle a gagné une victoire de la musique
voilà,
pour
exactement,
ça, hein, d'ailleurs.
Exactement. Et en fait, il y a une chanson qui vraiment correspondait parfaitement à cette scène. Et du coup, j'ai beaucoup écouté juste pour préparer cette scène. Et en fait, je m'en sers beaucoup comme appui, soit professionnel, soit personnel. Quand par exemple, voilà, si j'ai besoin de m'énerver, je vais écouter des musiques... un peu motivante, on va dire. Si j'ai besoin de m'apaiser, ou de me mettre le sourire, je vais écouter des trucs up. Si des fois, au contraire, je sens que j'ai besoin de pleurer, je peux écouter des trucs tristes exprès pour expurger ma peine. Et ça me porte beaucoup.
Ça répond un peu à...
Ouais, ouais.
À ta question, Adrien, ouais. Eh bien, c'était le temps que nous avions pour parler du stand-up.
Mais tant pis.
Ce sera pour une prochaine fois.
Exactement, une prochaine fois avec un prochain invité.
Mais absolument, j'espère. On va vous remercier, Nicole Ferroni, d'être venue.
Ah, quand même.
Il était temps
qu'on me remercie.
En même temps, il y aurait tellement d'autres questions.
Vous ne saurez
et
pas.
Eh bien, voilà.
Je serai obligée de revenir.
Ce sera avec un grand plaisir. La porte est ouverte. Ah ouais, vraiment. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour avoir cette sincérité, cette franchise, ces récits. Et cette transmission, donc, qui était très précieuse et très riche.
Merci
à
vous.
Et qui nous ont beaucoup plu, vraiment. Merci beaucoup.
Merci Radio Emma.
Merci beaucoup. Et merci aussi aux ados d'avoir été là et d'avoir participé à cette interview. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.
Ciao. Bye bye.